Vous êtes toujours avec nous sur BAC FM. Ce n'est pas un secret, dans un peu moins d'un an, la France changera de président de la République. À notre échelle la plus proche, celle des municipales, Denis Turiot a été réélu à Nevers, conservant ainsi l'un des derniers bastions macronistes. Dans une ambiance qui, il faut bien le dire, ressemble à une fin de règne présidentielle. Les candidats et candidates à l'Elysée se multiplient partout, de gauche à droite, en haut, en bas, et dans ce globi-boulga, des mouvements citoyens émergent, localement, comme pour vous. Représentée par Amandine Bougilla, qui était candidate aux municipales, élection où elle est arrivée 3e, puis s'est retirée, l'occasion donc de tirer un bilan de tout ça et mieux comprendre l'avenir de ce mouvement. Bonjour Amandine Bougilla.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Pour Vous. Bonjour Slaymane Chirara.
Bonjour Maxime.
Vous êtes secrétaire générale de Pour Vous. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation.
Merci.
Merci à vous.
Avant de parler de votre programme, de votre stratégie, de vos ambitions, si c'est le bon mot, j'aimerais commencer par la base. C'est quoi Pour Vous ?
Alors Pour Vous, c'est un mouvement citoyen, un mouvement citoyen et politique aussi, qui est né de la période post-électorale, voilà. Les élections municipales étant terminées, on s'est très rapidement posé la question de savoir ce qu'on allait faire finalement toute cette énergie qu'on avait engrangée pendant la campagne, du vote de confiance aussi des Neversois qui avaient cru en notre projet. Et puis finalement, on a été poussé par une forme de dynamique collective où les gens nous ont dit « mais vous pouvez pas nous laisser comme ça, il faut continuer, il faut poursuivre, il faut monter votre projet ». Donc c'est ce qu'on a fait et très rapidement, on s'est structuré, on a déposé nos statuts en préfecture et on a décidé de lancer Pour Vous.
C'est vrai que quand j'ai préparé cette émission, j'avais un doute entre mouvement citoyen, think tank, parti. Je ne sais pas si c'était ce qu'il y a de plus clair, mais ça l'est un peu plus. Vous dites que les citoyens se sont éloignés de la politique parce qu'elle ne leur parle plus. Est-ce que ce n'est pas aussi une responsabilité des politiques qui ont échoué à être claires ?
Je pense qu'en effet, les citoyens ne se retrouvent plus dans la politique. Ce n'est pas qu'ils se désintéressent du sujet. Je pense que la politique ne leur parle plus. Pour moi, c'est ça la grande différence. Et d'ailleurs, on l'a vu au cours des municipales. Il y a un Français sur 6 qui a eu recours à l'intelligence artificielle pour savoir pour qui il devait voter. Donc, c'est dire à quel point, finalement, les partis politiques ne leur parlent plus. Et donc, nous, on s'est dit très rapidement qu'il fallait qu'on essaie de formuler une réponse, en fait, à cette distance qui s'était créée entre les citoyens et entre la politique, parce qu'on peut aussi faire de la politique avec un grand P. Encore faut-il savoir sous quelle forme on l'a fait et de quelle façon on peut reconnecter les gens à la politique. Nous, avec beaucoup d'humilité, on se dit que si on arrivait à reconnecter les gens à la politique, à les réconcilier avec leur carte électorale, finalement, on aura déjà fait un grand pas.
Donc, pour qu'ils puissent repartir voter, ouais.
Voilà. Peut-être, il s'agit aussi de parler aux abstentionnistes. Enfin, il y a quand même eu 50% d'abstention aux dernières municipales. Je pense qu'il faut sérieusement commencer à se poser des questions.
Ce chiffre est plus important chez les jeunes.
Exactement.
Vous avez été élu pendant un moment quand même, 12 ans si je ne m'abuse.
Oui.
Vous vous incluez un peu dans ce bilan critique ?
Écoutez, j'ai porté des projets importants. Voilà. J'ai fait partie d'une majorité. Et moi, j'ai jamais renié tout le travail qui avait été fait, puisqu'il y a du travail qui a été fait. Un premier mandat dans lequel moi je me suis retrouvée en étant utile sur des projets auxquels j'ai pu participer. Un deuxième mandat un peu plus critique, mais enfin j'ai envie de dire tout ça est derrière nous maintenant. Moi j'ai envie de construire, j'ai envie de penser à l'avenir. Et puis si finalement j'avais décidé de porter un autre projet pour les municipales, c'est parce que je ne me retrouvais pas complètement dans ce bilan. Donc il était question de proposer autre chose.
Pour qu'on comprenne un peu mieux votre positionnement par rapport aux actions locales, dans notre studio à l'époque des municipales, justement, vous nous avez dit que vous n'étiez pas effectivement une candidate de rupture, mais plutôt du changement de méthode. Je crois que c'était vos mots. Ça va être quoi le rôle de Pour Vous dans l'avenir ? Est-ce que ça va être des conférences ? Tout à l'heure, je parlais de think tank. Comment ça va s'articuler ?
Le rôle de Pour Vous, déjà, c'est de pouvoir répondre à une demande des citoyens qui aujourd'hui se disent que la politique n'est pas faite pour eux et que finalement ils ne comprennent plus comment tout ça fonctionne. Ensuite, c'est de les accueillir. On est présent physiquement, on a un local, voilà. On a vraiment fait le choix d'avoir une présence physique aussi parce que c'est important de pouvoir accueillir les gens. Et en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est que Pour Vous soit une porte ouverte finalement à tous les gens qui ont besoin d'une oreille attentive, qui ont besoin pour faire une démarche qu'ils trouvent compliquée à faire, qui ont besoin parce qu'ils ont envie de s'engager dans une association, ils ont envie d'être utiles. Peut-être ils rencontrent des difficultés pour monter une entreprise. On ne veut pas se substituer au pouvoir public parce qu'ils ont leur rôle à jouer. Par contre, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde de pousser la porte d'une institution. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre à la disposition des gens qui en ont besoin un réseau, des compétences, des savoir-faire, puisqu'on a une plus pluralité de compétences dans notre équipe pour que ce soit utile. Voilà, donc j'ai envie de dire, tout ça sans mandat officiel et sans indemnité, c'est être un peu les élus du quotidien, finalement, sans mandat officiel.
Vous voulez compléter ?
Oui, je pense pour compléter, ce qui est intéressant, l'idée aussi, c'est vraiment d'aider les Nevers-sois, les Nevers-soises, les Nivernais, les Nivernaises à porter des projets. Hier encore, une entrepreneur est venue pousser la porte du local pour nous dire « Ok, j'ai une idée de projet, comment faire ? Où est-ce que je dois aller ? Qui je dois appeler ?» En 30 minutes, on a pu répondre à ses questions, on a pu l'accompagner dans ses démarches. Et c'est aussi pour ça que Pour Vous existe, c'est le côté citoyen qui est très très important.
Ils vont pas être contents, nos amis de France Service, que vous faites de la concurrence.
On fait pas de la concurrence, justement l'idée c'est d'expliquer les démarches et ensuite de les renvoyer vers les bonnes personnes.
S'ils doivent aller vers le réseau France Service, évidemment on les enverra vers le réseau France Service.
Exactement.
Mais ils ont pas forcément la connaissance de tous les citoyens.
Effectivement, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes sans mandat officiel. Corrigez-moi si je me trompe, mais me semble-t-il que votre liste a obtenu 1200 voix, 1198 me semble-t-il, au premier tour, et donc c'est placé troisième force politique à Nevers. Mm-hmm. Est-ce que, alors vous avez dit que vous ne vouliez pas parler du passé, c'est ma dernière question à ce sujet, c'est promis. Mm-hmm. Est-ce que vous avez une forme de regret de vous être retiré?
Alors,
parce que vous auriez pu être dans l'opposition.
Ouais, exactement. Ouais. C'est une question que évidemment je me suis posée. Hein. Quand on se retire, évidemment, on pèse le pour et le contre. Moi, je l'ai plutôt vu comme un acte de responsabilité. Finalement, la question que je me suis posée, c'est, j'avais deux choix qui s'offraient à moi. Soit je choisissais d'être dans une forme d'opposition classique. Alors, je siégeais effectivement au conseil municipal. Bon, je sais par ailleurs comment Denis Thuriot traite l'opposition. Bon, autant vous dire que sur le papier, c'était pas forcément très séduisant. Et puis, finalement, j'aurais pu faire comme certains opposants. Voilà, je prenais mon vélo, j'expliquais que c'était difficile de courir après toutes les réunions tous les jours sans jamais réellement peser dans les décisions. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas. En revanche, je me disais qu'il y avait certainement quelque chose de bien plus grand à construire. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'être justement dans la construction, de regarder l'avenir, de vraiment capitaliser sur tout ce qu'on avait construit durant la campagne. Et puis, de se dire que ce mouvement citoyen, il répondait à un vrai besoin qui dépasse l'enceinte d'un conseil municipal.
Est-ce que Pour Vous existe pour préparer aussi les prochaines échéances électorales ? Je ne vais pas faire de politique fiction, mais sans doute qu'après les présidentielles, il y aura une dissolution, puisque qu'importe le président ou la présidente élue, l'Assemblée nationale restera la même. La députation, ça vous tente ?
Bah, écoutez, je pense que déjà, on a fait une campagne en 3 mois. Bon, c'était une campagne éclair hein, sur les municipales. Mais c'était comme ça. Et n'empêche qu'en 3 mois, on est arrivé en 3e position. Alors que certains prétendaient qu'on ne dépasserait pas les 5%. Donc, c'était assez intéressant de voir qu'on faisait quand même 11,5 en l'espace de seulement 3 mois. Là, en 3 mois, on monte un mouvement. Voilà, donc vous voyez qu'on n'est pas resté, inactif. Au contraire, on a beaucoup travaillé parce que on sait aussi que ça demande du travail, que on voulait vraiment prouver aussi aux gens que on était prêt à se mettre au travail tout de suite, justement pour peut-être se préparer aussi à des échéances. Et si on est un mouvement citoyen et politique. Bah, c'est aussi justement parce qu'à un moment donné, on se dit qu'on a certainement des propositions à formuler sur les différentes échéances qui arrivent. Donc, c'est une vraie option.
Et vous parlez d'échéances, Maxime aussi. Je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est à la fin des municipales, beaucoup de personnes sont venues voir Amandine pour lui demander qu'est-ce que vous allez faire ? Comment est-ce que vous allez construire l'avenir ? C'est là aussi où on est pour vous. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'effectivement, toutes les échéances qui concernent la vie des habitants sont dans notre radar. Après, sous quelle forme, comment prendre position, c'est un autre sujet. Mais on a constitué un bureau, un conseil d'administration. Tout ça doit se discuter en temps voulu et les actions seront prises au bon moment.
Vous serez au courant.
Et Bac FM couvrira évidemment.
On s'en reparle à la rentrée.
Peut-être même que Bac FM aura des exclus.
Oh, j'adore. J'adore. Vous savez parler aux journalistes. Mais. Je pense pas que vous faire offense en disant que vous êtes plutôt de centre-gauche, je crois que c'est le mot que vous utilisez d'ailleurs, social-démocrate comme on dit dans le monde médiatique. Pour préparer cette émission, je me suis amusé à compter le nombre de candidats à la présidentielle sur cette ligne. Mmh. Attention, c'est non exhaustif. Delphine Bateau, Raphaël Glucksmann, Jérôme Gage, Karim Bouamran, François Hollande, Bernard Cazeneuve. Et entre le moment où j'écris ces lignes et le moment où l'émission sera diffusée, sans doute qu'on aura un sacré paquet d'autres. Vous comptez militer pour les présidentielles, appuyer un candidat ou une candidate ?
Bah, écoutez, déjà, c'est des discussions qu'on aura au sein du mouvement. Ouais. Voilà, par respect envers les gens qui nous font confiance, qui s'engagent à nos côtés. Évidemment que c'est des discussions qui vont arriver. Il y a forcément des candidats dans lesquels on retrouve des valeurs qu'on partage. Ça, c'est des valeurs progressistes, de justice sociale. Donc, évidemment que qu'il y a des choses aujourd'hui qui attirent notre attention, mais nous, on évaluera un projet, on n'évaluera pas un nom. Donc, c'est surtout ça qui va compter. Et puis, j'ai envie de dire que ce soit à gauche comme à droite, je ne suis pas sûre que la multiplication des candidatures, finalement, soit une bonne chose.
Vous regrettez un peu la politique du casting, cette espèce d'emballement médiatique à 11 mois des élections ?
Je pense que ce serait bien qu'on ait des politiques qui retrouvent un petit peu la raison et se disent que finalement, ça n'est pas en proposant 20 candidats, je pense qu'on réconciliera les Français avec la politique. Et à un moment donné, je pense qu'il serait de bon augure de construire d'abord un projet puis de se dire quel est le meilleur candidat qui est capable de le porter, finalement.
Au niveau local, à Nevers, la gauche est à peu près unis. Il y a le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les écologistes qui étaient derrière un seul et même candidat. Est-ce que ça va continuer ? Ça, l'avenir nous le dira. Mais enfin, c'est quand même une anomalie par rapport au niveau national. Qu'est-ce qui vous distingue de Wilfried Séjot, au fond, qui a porté cette liste unie ?
Bah, écoutez, il a porté une liste avec une logique d'appareil, mais c'est très respectable. Hein,
les citoyens, si, me semble-t-il. Je crois que c'était 50% politique, 50% citoyen. Je ne vais pas lui faire offense. Mais...
Oui. Enfin, avec une logique d'appareil quand même. Mais enfin, pour le coup, moi, je respecte ça, j'ai pas de difficultés avec cela. Je crois savoir par ailleurs, parce que vous savez, il se dit beaucoup de choses pendant les campagnes et post-campagne aussi, mais je crois savoir que le choix qu'il avait fait de ne pas vouloir trouver d'accord, en tout cas avec les propositions qu'on avait pu formuler, n'avait pas fait l'unanimité hein, au sein de son propre camp. Et d'ailleurs, ceux qui ne se sont pas retrouvés à ce moment-là sur ces choix-là, moi je les invite à nous rejoindre, voilà, parce qu'ils peuvent peut-être contribuer à faire de la politique autrement en se retrouvant sur un positionnement qui leur convienne. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, je pense que les municipales, c'est une chose, elles sont passées. Je pense que maintenant, il faut regarder devant et qu'en fonction des échéances, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre.
Vous avez 5 valeurs affichées sur votre site internet, en tout cas sur vos communiqués. Humanisme, inclusion, progressisme, liberté et proximité. J'ai un peu l'impression de revivre Macron 2017 avec En Marche.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Progressisme, liberté, il y a un petit côté social libéral, hein, si je devais lier encore des grandes valeurs, non ?
Bah, écoutez, moi en tout cas, c'est des valeurs derrière lesquelles je me suis toujours retrouvée et derrière, je pense, lesquelles nos adhérents se retrouvent. Donc ça déjà, c'est important. Des valeurs humanistes, je pense que je ne vous apprends rien. Je les ai toujours revendiquées. Après, des valeurs de progressisme aussi, bah, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut être capable de faire bouger les lignes quand c'est nécessaire. Des valeurs de proximité, ça je pense que pour le coup, ça me caractérise aussi parce que quand j'ai été élue, je pense que j'ai été une élue de terrain.
Vous avez beaucoup travaillé sur le Banlay notamment, je crois.
J'ai beaucoup travaillé sur tous les quartiers et j'ai rarement été dans mon bureau. J'étais plutôt à la rencontre des gens au quotidien et d'ailleurs c'est ce qui me plaît. Donc pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise même en n'étant pas élue et sans mandat officiel. Et puis des valeurs de liberté, parce que je pense qu'on peut être aussi capable de penser par soi-même ou la pensée unique, c'est pas trop ce qui me convient. Donc c'est aussi pour la raison pour laquelle on n'est pas forcément dans une logique de parti aujourd'hui. Donc non, moi je pense qu'au contraire, ce sont des valeurs qu'on est fiers d'afficher et puis finalement qui peuvent être assez fédératrices, je crois.
Il y a une différence majeure aussi, c'est qu'Amandine a quand même 12 ans d'expérience en politique avant de lancer ce mouvement. Je pense que c'est quelque chose aussi qui caractérise beaucoup pour vous. Aujourd'hui, on est en rupture totale avec la méthodologie des autres. Nous, on essaie de concerter un maximum. Notre conseil d'administration est composé d'experts, d'économistes, de personnes qui sont de la société civile, de patrons d'associations. Et ça, c'est des choses aujourd'hui sur lesquelles on souhaite capitaliser et que Macron n'avait pas quand il a débuté.
Un politologue, et streamer que j'aime beaucoup, expert en rhétorique, qui s'appelle Clément Viktorovitch, explique souvent qu'il faut faire attention avec les grandes valeurs, les grands mots, humanisme, inclusion, parce que personne ne se dirait contre aucun parti l'inclusion ou la liberté, même l'extrême droite, qui pourtant n'en sont pas à leur coup d'essai. Moi, je veux savoir ce que vous défendez en fait au fond de vous, derrière ces grands mots, ces grandes valeurs.
Bah, écoutez, je pense que c'est en partie ce qu'on a défendu aussi au cours des municipales. C'est un projet de territoire déjà. C'est le fait de parler au territoire et de remettre les citoyens au cœur du débat public. Quand on parle par exemple de citoyenneté, de démocratie participative, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ceux qui font la Nièvre, ce sont les citoyens, ce sont les Nivernais, ce ne sont pas les politiques. Les politiques sont au service d'eux, ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Donc, il y a une vraie notion d'intérêt général, et nous, pour le coup, c'est vraiment ça qui est au cœur de notre projet. Ensuite, on se dit que si les gens ne se retrouvent plus dans la politique actuelle, il faut essayer de faire quelque chose. Alors, à notre échelle, voilà, évidemment qu'on n'aura pas forcément, on n'a pas de baguette magique, donc on n'aura pas réponse à tout. En revanche, il faut vraiment, c'est un signal d'alarme aujourd'hui. Quand les gens ne vont plus voter, c'est par désespoir. Donc, je pense que d'une manière générale, si les politiques s'étaient un peu plus interrogés sur le fait que les gens sont blasés, en fait, les gens sont désespérés. Donc, il faut tenter de trouver une forme de réponse qui est peut-être en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre format, il est atypique, mais il est assumé. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que en peu de temps, on se rend compte qu'on intéresse même au-delà de la Nièvre. Donc, voilà, et on nous dit, mais vous avez monté quelque chose assez rapidement et qui n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir par ailleurs. Donc, oui, nous, ça sera sous forme de conférences. Ça sera le fait de mettre en lumière des acteurs du territoire. Ça sera le fait de mettre en lumière des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Nous, on s'intéresse aux gens et on le fait pour les gens.
Pour compléter aussi ce qu'Amandine partage, la formation, c'est quelque chose de très important pour nous aussi, inspiré. Cet après-midi, on est sur Bac FM. 3 jeunes sur 4 aujourd'hui ne savent pas quel métier souhaiteraient exercer. On est accompagné d'un jeune aujourd'hui qui vient de lancer un nouveau média, Micro-Trottoir 58. D'ailleurs, je vous invite à le suivre. Salut Evan. On lui a proposé de venir avec nous pour voir comment est-ce qu'une interview est menée, comment est-ce qu'une interview se passe. Ce soir, on a invité à une conférence d'entrepreneurs sur la charité sur Loire pour discuter des problématiques du territoire. Comment est-ce qu'ils peuvent être aidés concrètement, avec des mesures concrètes? Je pense que c'est aussi tout ça qu'on essaie de porter avec pour vous, de l'action, de l'écoute et de la discussion.
En action concrète, j'en ai trouvé une de votre côté. Vous avez ouvert un local au 27 rue de Rémini et vous annoncez un café citoyen chaque samedi à 10h. C'est quoi ce café citoyen? Qu'est-ce qui va s'y passer?
Ce local, il est ouvert. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accueillir tous les gens qui ont envie de nous découvrir, qui veulent découvrir notre projet. Donc, on les accueille. C'est un moment convivial. On leur offre un café. Et puis, ils nous font part de leurs problématiques s'ils en ont. Voilà. Et c'est un échange en toute convivialité. Ce local, il sert aussi à porter des initiatives, justement, citoyennes. On a profité de notre lancement officiel pour en faire aussi un vernissage. L'idée, c'est que ce soit un local qui puisse servir à des initiatives, à dimension culturelle, sportive, de citoyenneté. Là, on avait effectivement tout un réseau d'artistes nivernais qui créent, en fait, qui peignent. Et donc, on leur a proposé de pouvoir en faire aussi un lieu d'exposition. Donc, vous voyez, c'est aussi mettre en lumière les gens qui veulent porter des choses et qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Le local, il va aussi servir à ça.
Faire un espace de rencontre et donner des conseils à droite à gauche.
Ouais, des conseils, une forme d'appui, une forme de soutien aussi.
Des mises en relation aussi.
Et de et en faire un lieu de rencontre.
Votre mouvement revendique plus de 100 adhérents et adhérentes, un bureau exécutif, un conseil d'administration de 25 personnes et un financement citoyen. Comment est organisée cette gouvernance? C'est assez impressionnant en 3 mois d'avoir quelque chose d'aussi structuré.
Ben oui, mais on a beaucoup travaillé.
Beaucoup,
Maxime.
Mais j'en doute pas une seconde.
En fait, on s'est structuré assez rapidement, déjà parce que tout le monde avait envie de poursuivre. Voilà, tout le monde avait envie de continuer l'aventure, du coup, sous une autre forme. Donc ça donne beaucoup de force, ça donne beaucoup d'énergie. Donc effectivement, on s'est structuré, on a formé un bureau, on a formé un conseil d'administration, avec une forme d'autofinancement. Donc on a mis en place un système de cotisation. Les gens, effectivement, peuvent nous verser, nous faire des dons particuliers, mais cotisent aussi sous forme d'adhésion. Et donc, on fait vivre le mouvement grâce à cela. Donc, déjà, c'est assez, c'est pas forcément banal. Voilà, c'est pas forcément commun d'avoir un mouvement citoyen qui est capable de s'autofinancer en si peu de temps. Et puis ensuite, on est là pour porter des actions tous ensemble et puis, faire naître des initiatives sur le territoire, comme on vous l'expliquait juste avant, et puis finalement de prendre des grandes décisions tous ensemble.
Je pense que cette structuration aussi, et cet investissement, cette ambition qu'on porte, c'est aussi le fruit de beaucoup d'expérience. Amandine a été élue, elle a beaucoup travaillé avec les associations. Moi, je viens du monde du conseil. Aujourd'hui, on sait comment se structurer rapidement. On avait une équipe qui nous soutenait, qui avait besoin de cette structure. On l'a montée très rapidement avec de différentes expériences.
Je m'intéressais à votre méthode de gouvernance, puisque aujourd'hui, les trois grands partis favoris pour la présidentielle, LFI, j'allais dire En Marche, Renaissance, et donc le Rassemblement National, ont 3 leaders et leaderuses charismatiques. Comment vous voyez votre gouvernance? Que c'est quelque chose de vertical, pour dire les choses, ou est-ce que c'est une sorte de démocratie? Comment ça marche? Est-ce que c'est vote à main levée?
Bon, pour le coup, on partage tout. Voilà, on partage tout. Il n'y a aucune décision qui est prise de façon unilatérale. Pour nous, c'est important. C'est comme ça qu'on a mené la campagne des municipales. Donc, c'est comme ça aussi qu'on compte mener ce mouvement. Et puis d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a intéressé. Hein. C'est une façon vraiment de remettre de la démocratie là où peut-être on l'a un peu perdue. Il y a vraiment une forme de participation au sein du mouvement qui est très importante. Et puis, on se réunit de façon aussi très régulière, que ce soit le bureau, que ce soit le conseil d'administration. On se voit très souvent et du coup, chacun a une forme de responsabilité dans ce mouvement. Ça, c'est hyper important aussi. On s'est structuré en pôle. Donc, on a des référents sur l'économie, on a des référents sur le sport, on a des référents sur la culture, sur la jeunesse, sur la citoyenneté, sur toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur. Et donc, chacun porte une responsabilité au sein de ce mouvement.
L'idée, effectivement, aussi, c'est de donner un cap, de donner une ambition, ensuite de la mettre en musique. Beaucoup de participation. Effectivement, on vote à main levée. On a un conseil d'administration qu'on réunit très souvent. On a un bureau qu'on réunit très souvent. On a un expert aussi qui fait beaucoup de sondages sur nos boucles WhatsApp pour demander les avis des unes et des autres. Donc, je pense qu'effectivement, le côté participatif et citoyen et démocratique est très présent dans notre mouvement.
En parlant de participation, tout à l'heure, on abordait... le fait que les jeunes ont moins participé que la moyenne nationale aux élections municipales. Par ailleurs, la moyenne est déjà basse. Slayman, je crois que vous avez 27 ans, me semble-t-il.
28, ouais.
28, excusez-moi.
Pas de problème.
vous avez milité dans différents partis. Vous êtes ce qu'on appelle une anomalie, du coup. Vous intéressez beaucoup à la politique. Comment on fait, en fait, pour réintéresser les jeunes à la politique? KFM est une radio lycéenne. Occupe-toi de la politique ou c'est la politique qui s'occupe de toi, dirait l'adage.
Alors, je pense pas qu'il y ait de recette secrète. À mon avis, il y a deux possibilités. Soit on est inspiré par quelqu'un ou par un projet. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un projet politique parce que cette personne qui l'incarne aujourd'hui va nous inspirer. On va suivre ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Ou sinon, il y a des thématiques qui peuvent nous intéresser. On voit qu'aujourd'hui, l'écologie, une thématique est prédominante chez les jeunes. L'idée, c'est aussi de mettre en place des cafés citoyens, des expositions et des événements qui parlent aux jeunes avec des sujets en rapport avec la jeunesse pour permettre de susciter cet intérêt. Quand on a fait le lancement, on a eu quelques idées, notamment le saxophone, un bar à cocktail, etc. Les jeunes sont passés, se sont arrêtés, ont discuté. Donc il y a ce côté où on suscite l'intérêt, on les amène vers nous et ensuite on discute pour garder cette relation un peu plus long-termiste. Donc pour moi, c'est vraiment une question de susciter l'intérêt ou d'inspirer.
Tout à l'heure, vous évoquiez aussi l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont servis de ces agents IA pour, en tout cas, être conseillés ou du moins avoir des précisions sur le vote. Ça pose question hein, quand on sait qu'une des IA les plus utilisées, Grok, est détenue par un milliardaire d'extrême droite, Elon Musk, pour ne pas le citer. Comment on fait? Je recevais il n'y a pas si longtemps l'élu aux nouvelles technologies de la ville de Nevers qui me disait en fait il faut des IA même au niveau local, etc. C'est quelque chose que vous pourriez soutenir, ça?
Écoutez, moi je pense que dans la mesure où on a recours à l'IA pour savoir pour qui voter, bon, je pense que la question est ailleurs, quoi. C'est pas un jugement de valeur. Je pense que si les gens ont recours à l'IA, enfin si les jeunes ont recours à l'IA, mais je pense qu'il n'y a pas que les jeunes hein, d'ailleurs qui sont concernés, mais c'est qu'à un moment donné, il y a une forme d'incompréhension. Donc ça veut dire qu'il faut y répondre. Maintenant, mettre de l'IA partout, je ne sais pas. Sans doute que aujourd'hui on vit dans l'ère de l'IA. Ce serait stupide de dire que ils font complètement s'en passer. Je pense que c'est pas le cas. Mais quand il s'agit de l'avenir de son pays, quand il s'agit de savoir pour qui on va voter, quand il s'agit de savoir quelles décisions vont impacter notre quotidien. Je ne suis pas sûre que l'IA ait toutes les réponses. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de réintéresser. Il faut trouver un moyen de remettre du dialogue aussi avec les citoyens, là où on n'en a plus du tout. Enfin, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les jeunes avaient même l'idée de savoir qui était candidat, vous voyez, aux dernières élections. Voilà, donc non, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Et je pense qu'en matière de démocratie, je pense que ce serait bien de remettre de l'humain, au contraire.
On en a encore à faire de la politique en collant des affiches, en distribuant des tracts. Est-ce que c'est pas un peu vieillot tout ça? Est-ce qu'il faudrait être présent sur d'autres plateformes, faire de la politique autrement?
Je pense que faire de la politique autrement, je pense que ça implique aussi le fait de s'adresser aux gens autrement, effectivement. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors après, évidemment, quand vous êtes en période de campagne, évidemment que vous allez coller des affiches, évidemment que vous faites un petit peu...
aux endroits appropriés, d'ailleurs.
Aux endroits appropriés, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
De Bruno Benchemac, notamment.
Mais en tout cas, ça fait partie du jeu, et on se prend au jeu, et c'est normal. Mais je ne suis pas sûre que ça fasse complètement le job. Donc évidemment que les réseaux sociaux... joue un rôle important. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut se trouver là où les gens vont chercher de l'info, en fait. Donc il ne faut pas attendre que les gens viennent la chercher tout seuls.
Tout à fait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de toucher les gens. Si vous passez devant notre local au 27 rue de Rémini à Nevers, les gens s'arrêtent parce qu'on a collé une grande affiche avec des chiffres. Un électeur sur 6 a utilisé l'intelligence artificielle pour savoir voter. Un entrepreneur sur 2 a eu des problématiques. Et juste en bas, on a un grand QR code. Les gens s'arrêtent pour lire l'affiche qu'on a collée et ensuite continuent en scannant notre QR code. Et je pense que c'est ce mélange vraiment d'hybride, en fait, de virtuel mais aussi de réel qui va nous permettre de toucher un maximum de personnes et surtout d'aller toucher les jeunes sur les réseaux sociaux. C'est indéniable.
Vous dites être libre de toute appartenance partisane, mais ouvert au dialogue avec les forces dont les engagements convergent avec les vôtres. J'aimerais savoir avec qui vous pouvez travailler.
Alors nous, on peut travailler avec les gens qui ont l'amour du territoire, parce que nous, on est vraiment guidés pour le coup par le territoire et par les intérêts du territoire. On peut travailler avec les gens qui sont dans le champ républicain. Pour nous, c'est très important.
Alors, c'est là que le champ républicain, c'est une expression beaucoup utilisée au niveau national. Et selon qui l'utilise, le champ diffère un peu de place, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous incluez dans le champ républicain ?
Bah, dans le champ républicain, moi, j'y trouve déjà nos valeurs, les valeurs qu'on porte et les valeurs qu'on choisit d'incarner. Voilà, pour nous, c'est très important. On veut pas tomber dans des formes de clivage, quelles qu'elles soient. Pour nous, c'est important. Tout à l'heure, on parlait de positionnement. C'est vrai que nous, on revendique, en tout cas moi, je revendique à titre personnel un positionnement de centre-gauche, mais parce que je me suis construite comme ça et parce que ça fait partie de mes convictions. Mais vous voyez, par exemple, il n'est pas incompatible d'être de centre-gauche et de parler d'économie, par exemple. On l'a fait beaucoup pendant la campagne des municipales. En fait, je pense que l'important, c'est de savoir comment on porte les projets, comment on choisit de porter les sujets. Je pense que c'est surtout ça, aujourd'hui, qui importe les gens. Mais en tout cas, voilà, pour nous, l'arc républicain, c'est vraiment les valeurs républicaines. Bon, je pense qu'on les connaît. Et c'est surtout ce qui prime, c'est les valeurs qu'on choisit d'incarner et les valeurs qu'on choisit de porter, quoi. Et la façon dont on porte les sujets.
Est-ce qu'il y a quand même des lignes rouges ? L'extrême droite est au conseil municipal, représenté par Xavier Morel, avec des membres du Rassemblement national dans sa liste de Debout la France, de Reconquête. Est-ce que ça, c'est une ligne rouge ou ?
Mais c'est une ligne rouge, mais la question ne se pose pas. C'en est une.
Dans votre discours, vous parlez beaucoup de la Nièvre, des jeunes qui hésitent à rester, des commerçants, des artisans, des aînés, des invisibles. Est-ce que vous pensez que le territoire souffre d'un sentiment d'abandon ? 23% de taux de pauvreté selon l'INSEE à Nevers, c'est un peu plus que la moyenne nationale.
Déjà, on a effectivement un taux de pauvreté qui est plus important dans la Nièvre. On a aussi une Nièvre qui souffre, mais je pense que ça n'est pas nouveau, d'un sentiment effectivement... d'abandon parce que notre position géographique aussi fait que on se retrouve souvent en bout de fil par rapport parfois à des territoires qui sont très importants où on a le sentiment de devoir lever la main un peu pour exister. Donc ça, c'est vrai que c'est une difficulté, même si elle date pas d'aujourd'hui. On est aussi dans la ruralité, enfin la Nièvre, c'est aussi la ruralité, c'est aussi une fierté, mais du coup on sent que il y a une déconnexion qui est très importante, finalement. En tout cas, c'est ce que les gens nous disent et c'est ce que les gens nous ont dit pendant les municipales, mais c'est ce qu'ils continuent de nous dire aujourd'hui. C'est comment aujourd'hui, nous, on existe, comment on peut être pris en compte dans tout ça. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple très concret, mais quand à un moment donné, on a des politiques sur un plan national qui disent « Bon, franchement, si l'essence est trop chère, restez chez vous, mettez-vous en télétravail. » Vous voyez, dans la Nièvre, vous ne pouvez pas dire ça au Nivernais, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est dans un territoire où les gens, ils ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Bon, ils ne vont pas faire la moitié de la route pour payer moins d'essence, vous voyez. Donc,
par ailleurs, le télétravail dans le BTP, par exemple, ça me semble un peu...
C'est plus compliqué, ou quand on accueille du public, c'est plus compliqué aussi. Donc, à un moment donné, en effet, je pense que les Nivernais, ils ont besoin d'être reconnus pour ce qu'ils sont. Je pense qu'on a besoin aussi de redonner de la fierté au territoire. Sans doute, on en a beaucoup perdu ces dernières années. Moi, j'y crois beaucoup, mais encore faut-il être pris en considération et que les territoires soient pris en considération. Je pense qu'il y a quand même encore du chemin à parcourir.
Vous y croyez beaucoup. C'est quoi l'avenir de pour vous ? C'est quoi le prochain événement d'un point de vue calendrier, je veux dire ? J'imagine le prochain café ?
Alors, le prochain café, on en aura beaucoup.
Oui.
Beaucoup. On en aura beaucoup. Le prochain café, parce que c'est tous les samedis déjà. On compte proposer beaucoup de rencontres aussi, de rencontres sur le terrain, qui redébuteront à partir de la rentrée sous forme d'événements. Parce que, encore une fois, on veut être sur le terrain, on veut être présent, mais au milieu des gens, vous voyez, pas que dans notre local. Donc l'idée aussi, c'est qu'on délocalise un certain nombre d'événements. Et puis, on veut mettre en lumière aussi tous ceux qui font le territoire. Donc on proposera un certain nombre d'événements et vous serez conviés, Maxime, évidemment.
Merci. beaucoup.
Et pour compléter, ce qui est intéressant, depuis le lancement, on avait un planning effectivement avec différents événements qu'on a légèrement décalé, puisque depuis le lancement, on a été contacté par différentes structures. On était la semaine dernière à l'Incube pour rencontrer des entrepreneurs. Ce soir, on va à la Charité sur Loire. On a des directeurs d'associations, des présidents d'associations qui souhaitent nous rencontrer. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre ce temps pour aller les voir. Et dans un second temps, probablement, effectivement, comme Amandine l'a dit, dès la rentrée, on organisera des événements pour vous sur différentes thématiques et dans différents endroits.
Merci beaucoup, Amandine Bougila. Merci, Slaymane Chirara, d'avoir répondu à mes questions.
Merci, Maxime.
Merci beaucoup.
Restez à l'écoute de Bac FM, votre radio pop rock metal préférée.